Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean Tempajou, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi notre invité Francis Denis, qui a des formations en histoire, en philosophie, en théologie, puis il a publié un livre sur la Révolution tranquille, une révolution pour rien, dont j'avais envie de lui parler aujourd'hui. Comme vous le savez, Jonathan Pimon s'intéresse au Québec depuis quelques mois là, maintenant sur le podcast ici. Puis ben j'avais été en fait en contact avec toi, Francis, il y a environ un an. Une entrevue où on s'était fait inviter tous les deux, puis tu avais justement parlé de ce livre-là, puis je me rappelais que j'avais trouvé ça intéressant. Donc j'ai lu le livre, puis sans plus attendre, pour commencer, j'ai envie de te demander, tu sais, de nous résumer ta thèse principale dans ce livre-là.
Bon, en gros, ma thèse, le livre, merci de l'invitation d'abord. C'est vraiment une joie de pouvoir discuter avec vous de ce sujet. C'est la Révolution tranquille, en fait, cette période historique qui est à peu près dans les années 60 au Québec, où est-ce qu'on est, la vision traditionnelle qu'on a. Moi, j'ai toujours trouvé un peu insatisfaisante au niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'on présente, mettons, à l'école, les cours d'histoire officielle qu'on a au secondaire, même au primaire, puis dans les médias, dans la culture générale. En gros, ce qu'on présente, c'est, bon, il y avait une espèce de Québec obscurantiste qui, avant 1960, disons, la Grande Noirceur, où il y avait une alliance du trône et de l'autel, Maurice Duplessis et le clergé qui s'étaient unis d'une certaine façon pour pouvoir enfermer la population sous leur contrôle. Et 1960, c'est la Révolution tranquille, le moment où est-ce que les Québécois prennent leur destin en main devant ces différents pouvoirs et finalement sous le signe de l'émancipation. Ces années-là ont été, il y a eu une révolution, mais sans verser le sang. Donc, il y a vraiment eu une émancipation du peuple québécois et des individus contre les autorités traditionnelles, en gros. C'est la manière qu'on le présente un peu, donc avec la révolution sexuelle. Donc, il y a un volet politique, un volet, culturel, un volet même spirituel à tout ça. Et donc, d'une certaine façon, moi, ce que j'ai toujours eu, donc je suis né un peu dans cette vision-là parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. Mais après, j'ai vécu une conversion vers 18 ans environ. Et là, j'ai comme graduellement intégré les différents cercles ecclésiaux, graduellement, jusqu'à éventuellement devenir séminariste. Donc, j'ai étudié pour devenir prêtre pendant 5 ans. Puis, graduellement, je me suis rendu compte que à l'intérieur même de l'Église catholique, en l'occurrence, parce que c'était elle qui était la grande coupable, parce que c'était elle qui était la plus puissante après 1960 au Québec, à l'intérieur même de l'Église, les prêtres, les religieux, même des évêques, etc., ils étaient toujours, ils voyaient pas la Révolution tranquille, ou disons cette période où ils ont, entre guillemets, perdu leur pouvoir, ils ne le voyaient pas comme étant quelque chose de mauvais. Ils le voyaient comme étant, oh non, au contraire, c'était une bonne chose que l'Église perde toute l'autorité qu'elle avait, c'était très bien. Donc, il y avait une espèce de culpabilité aussi. Bon, on va arrêter de dire aux gens quoi faire. Les évêques sont passés des petits évêques, entre guillemets, conservateurs, qui dit aux gens comment vivre, même dans les aspects les plus particuliers, donc il y avait de leur vie. Ils dirigent le système d'éducation, ils donnent des prérogatives dans le système de santé. Donc, il y avait vraiment, c'était le type d'évêque avant. Et tout de suite après la Révolution tranquille, les évêques, disons même, ça peut se voir dans la personnalité de certains évêques en particulier, il y a un avant et un après, par exemple le cardinal Léger. Il commence son cardinalat épiscopat à Montréal, il devient cardinal, Montréal s'est fait belle pour accueillir son prince, et finalement, on se ramasse tout de suite après cette période-là, où est-ce que là, on a abusé de notre pouvoir, et il faut se dépouiller, puis il va finir au Cameroun, en Afrique, pour pouvoir, comme missionnaire et tout ça. Donc, il y a un dépouillement. Donc, les évêques eux-mêmes incarnent un peu cette période-là. Donc, un épiscopat, qui s'affirme d'une manière avec de l'autorité, à un épiscopat qui se présente comme étant, il faut se détacher, la société a atteint un certain niveau d'autonomie et donc nous l'avons élevé et c'est le temps que la société québécoise vole de ses propres ailes, d'une certaine façon. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre dans l'Église, que dans l'Église elle-même, elle voit ce qui serait vu comme étant, disons, une perte de ces institutions. Donc, n'importe quelle institution, si elle se voyait amputée de ses soins de santé, de ses écoles et de tout ça, n'importe quelle institution qui perdrait le contrôle de ça le verrait de mauvais œil. Au contraire, on est entre guillemets, nous a volé nos institutions, mais au Québec, c'est le contraire. On voyait les évêques eux-mêmes et les autorités le voyaient d'un bon œil. Donc là, j'ai vu, il y avait une contradiction. J'ai dit, comment ça se fait que ce qu'on me présente comme une émancipation contre l'Église, finalement, l'Église a plus l'air d'avoir collaboré à cette, entre guillemets, émancipation-là. Donc, je voyais déjà une espèce d'incohérence. T'sais, si on prend, ben, mettons, la Pologne, entre guillemets, la Pologne sous le joug communiste versus le Québec catholique, c'est à peu près la même situation qui s'est passée, c'est-à-dire que l'ensemble des institutions ont été saisies, entre guillemets, par l'État. En Pologne et au Québec. Sauf qu'en Pologne, ça a été vu d'un très mauvais œil. Il y a une résistance et tout ça. Karol Wojtyła fait ses études de séminariste en risquant sa vie, bon, d'abord sous le régime nazi, mais après ça, c'est sur le régime communiste et il va haut et fort faire des messes disons, se battre pour ces institutions. Tandis qu'au Québec, au contraire, c'est l'inverse. Les évêques, entre guillemets, et les différentes corps religieux, on peut penser aux ordres religieux, ils vont, d'une certaine façon, collaborer dans la transmission de l'Église vers l'État. Donc, il y a vraiment quelque chose de complète. Donc, c'est la perspective qui change. Et finalement, moi, je me suis posé comment est-ce qu'on peut comprendre intellectuellement cette collaboration du clergé dans la cession de toutes ces institutions. Fait que je me suis dit, ben là, j'ai étudié plusieurs auteurs, notamment Charles Taylor et tout ça, mais finalement, si on y pense de 3 secondes, c'est que là, on peut, lorsqu'on prend une décision sur quelque chose, on le fait pour le mieux ou pour le bien. T'sais, les gens, généralement, ne vont pas décider quelque chose en sachant que c'est mal. Même si on le sait qu'on peut le faire, là, si Saint-Paul nous le dit, on fait le mal qu'on ne veut pas faire, mais on sait que c'est mal. Donc, les évêques, d'une certaine façon, ont vu la Révolution tranquille, donc la cession de l'Église vers l'État. Et ils ont vu ça comme étant non pas en rupture avec ce qu'ils avaient cru jusqu'à ce moment-là, mais en continuité. Donc, c'est justement cet élément-là de continuité que j'ai voulu analyser. Comment se fait-il que, d'un point de vue de la justification théologique de la cession des institutionnels de l'Église, de la présence de l'Église dans la société, elle a vu ça, le fait de perdre tout pouvoir temporel, entre guillemets, comme une bonne chose et même un accomplissement de tout ce qu'elle avait dit jusqu'à maintenant. Donc, c'est un peu la trame disons, qui suit un peu l'ensemble du livre, mais le livre, il se présente comme une analyse, on pourrait dire généalogique, donc je fais la généalogie idéologique et historique de, justement, de la continuité qui s'est passée au Québec. Fait que je pars de la Nouvelle-France, puis je vais jusqu'à 1980, la fin, entre guillemets, de cette période de révolution tranquille-là. Puis j'essaie de trouver quelle est la continuité. Fait que c'est un peu ce qui a guidé un peu mes recherches, mais dans le fond, je suis pas parti avec cette thèse-là. La thèse a émané des recherches, mais disons, l'intuition fondamentale, c'était comment se fait-il que l'Église ait collaboré à cet événement historique de la Révolution tranquille qui l'a, d'une certaine façon, rendu un peu impertinente dans la société québécoise.
Oui. C'est une bonne question. C'est sûr que de mon côté, je pense que j'ai une expérience similaire à la tienne. On a des âges similaires. Puis quand j'allais à l'école, je sais même pas à quel point ça m'a été enseigné directement à l'école, honnêtement. J'ai l'impression que c'était comme dans la culture, le message que j'ai jamais entendu. Puis en plus, je pense que c'était en parallèle avec ce qui se passait aux États-Unis avec les New Atheists. Tu avais comme l'idée très simpliste que, OK, il faut utiliser la raison pour se débarrasser des anciennes institutions médiévales. Puis au Québec, on avait ça dans les années 60 à peu près. Puis c'est comme l'histoire que j'avais spontanément entendue. Puis tu sais, en plus, moi, tu sais, quand je me suis aussi converti début vingtaine, puis les catholiques que je voyais autour de moi, tu sais, je voyais surtout des gens sérieux, mettons des convertis qui avaient pas l'air, en fait, souvent hostiles à la Révolution tranquille, puis tout. Fait que j'ai été très surpris d'apprendre que des gens me disent qu'en fait, les gens comme du clergé de l'époque ont activement collaboré à la Révolution tranquille. Mmh. Fait que c'est une bonne question que, honnêtement, moi, je m'étais jamais posée avant.
Il y a même un livre sur cela qui était écrit par Michael Gauvreau, là, je m'en voudrais de ne pas l'avoir cité, là, mais c'est Les origines catholiques de la Révolution tranquille, The Catholic Origin of the Quiet Revolution. Donc ça, c'est comme un livre un peu iconoclaste, puis je m'insérerais un peu dans cette perspective-là, mais avec des différences, là, on va pouvoir en parler.
Ouais. Puis, c'est, sinon, de l'autre côté, le genre de, disons, de théorie que j'ai entendu tout de suite pour expliquer ce qui s'est passé, c'était souvent, ça vient plus, mettons, de catholiques très de droite ultramontain qui vont essayer de blâmer tout sur Vatican II, disons. Donc, je vois ce genre de critique-là. Mais dans ton livre, si j'ai bien compris, toi, tu remontes à beaucoup plus loin. Là. Tu vas chercher, justement, en fait, chez l'ultramontanisme québécois, les racines de ce qui s'est passé ensuite.
Oui, c'est ça, c'est un peu le pied de nez, bon, un peu subtil que je fais, c'est-à-dire que je montre les liens de continuité entre un type d'ultramontanisme que j'appelle utopique, l'ultramontanisme utopique de Mgr Laflèche, et le lieu originel de ce mouvement d'auto-sécularisation de l'Église qui va mener au, disons, progressisme étatique providentiel. Fait que dans le fond, l'espèce de... Il y a un lien de continuité substantiel avec des évolutions, des ramifications différentes, mais à la fois au niveau idéologique et à la fois historique, c'est-à-dire institutionnellement, il y a une succession d'institutions qui portent ces idéologies-là, qui se transmettent le flambeau, mais concrètement, là, c'est pas une autre qui est influencée. Non, c'est le Père Lévesque, par exemple, qui va être impliqué dans un groupe qui va finalement commencer un autre groupe, justement, par exemple, à l'Université Laval avec la Faculté des sciences sociales, puis c'est lui qui va faire évoluer, par exemple, du corporatisme vieillissant vers un coopératisme, mais c'est la même personne, puis c'est institutionnellement, ça se suit, mais idéologiquement aussi, il y a un lien de filiation. Donc, c'est un peu ce que je fais, puis donc on part de Mgr l'ultramontanisme de Mgr Laflèche, qui est l'évêque de Trois-Rivières, chef des ultramontagnes de son temps, on parle du fin du 19e siècle, qui serait, d'une certaine façon, le premier progressiste état-providentiel. Donc, c'est drôle à quel point... Je fasse ce lien-là qui est assez nouveau. Puis je pense que ceux qui sont, entre guillemets, porteurs du progressisme, ils n'aimeraient pas voir ce lien-là de filiation. Là. Je pense qu'ils ne seraient pas nécessairement d'accord, mais en tout cas, il faudrait discuter des raisons qui me portent à faire ça.
Ouais, parlons-en un peu plus, justement. Parce que si je me rappelle bien, l'ultramontanisme qu'il y avait chez Mgr Bourget, ça, tu serais en faveur de ça, là. Ça semblait bien fonctionner. C'est quand on passe dans les années 1870 avec Mgr Laflèche qu'on commence à être utopique puis qu'on s'en va dans la lignée jusqu'à la Révolution tranquille.
C'est ça, exact. C'est-à-dire que pour moi, il y a un changement qui se fait au sein même de l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, pour faire une histoire brève, c'est ce mouvement intellectuel première, disons, qui apparaît surtout en France. C'est-à-dire que c'est les ultramontains, c'est-à-dire au-delà des montagnes. Quelles sont ces montagnes-là? Ce sont les Alpes. Et finalement, ben, c'est la France qui regarde au-delà des Alpes, c'est-à-dire Rome. Donc, j'ai fait une analyse un peu de ce mouvement au niveau intellectuel et lui veuillot et tout ça. Donc, ça, c'est une question, disons, française. Mais ce mouvement-là a eu des fruits au Québec. Et la chose qui distingue en gros, l'ultramontanisme français et québécois, c'est le nationalisme. C'est-à-dire que en France, l'ultramontanisme n'est pas un nationalisme parce que justement, il regarde au-delà de la France. Il cherche des traces de monarchie, on pourrait dire, de ruissellement théologique dans le pouvoir temporel à travers la figure du pape parce que justement, il n'y en a plus au niveau français à cause de la Révolution française. Tandis qu'au Québec, c'est un peu la même chose, mais on va essayer de voir une espèce de roi épiscopal, mais qui se soumet à Rome. Mais c'est une façon, l'ultramontanisme est une idéologie qui permet, disons, aux Canadiens français post-rébellion de 1837-38, de survivre à travers ce réseau institutionnel ecclésial. Donc, Mgr Bourget arrive à ce moment-là, bon, et lui, c'est un grand, c'est un évêque ultramontain. Mais pour lui, c'est d'abord un évêque. Donc, l'ultramontanisme, pour lui, c'est une façon pour lui, entre guillemets, c'est une idéologie qui lui permet, disons, d'encadrer la société québécoise, mais toujours dans la perspective, on pourrait dire spirituelle, de sauver les âmes. Donc, Mgr Bourget, c'est ça son but. Donc, il va utiliser, Puis il faut pas non plus parler de sécularisation avant le temps. On était toujours un peu dans un monde sacré où est-ce que le sacré et le temporel, le spirituel et temporel sont encore ensemble, sont encore conceptuellement vécu comme étant une unité. Et donc, la distinction n'est pas encore assimilée par la société à ce moment-là. Donc, pour lui, c'est vraiment ça. Mais le but, la priorité, c'est le spirituel. La différence avec ce que j'appelle l'ultramontanisme utopique de Mgr Laflèche, qui est un peu son successeur, c'est des amis, et c'est lui qui, après la retraite et la mort de Mgr Bourget, va prendre, entre guillemets, le haut lieu du mouvement ultramontain. Donc, lui, sa personne, je ne juge pas l'âme du Mgr Laflèche du tout, mais on voit dans son épiscopat, dans ses enseignements, dans sa pastorale, on voit comment il, d'une certaine façon, présente le catholicisme comme étant un instrument, non pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est le spirituel qui se met au service du temporel. Alors que Mgr Bourget mettait le temporel au service du spirituel, le but c'est le salut des âmes, Mgr Laflèche va comme inverser le rapport, mais à cette époque-là, il y a une inversion, mais on s'en rend pas compte parce qu'ils sont très proches. On s'en rend compte aujourd'hui lorsqu'on voit où est-ce que ça menait, mais à l'époque, on le voit pas beaucoup, mais on voit quand même que dans sa pastorale, à tout le moins, le but c'est la nation canadienne-française, la protection de la langue et ce que j'appelle un mission. C'est pas juste moi, c'est pas moi qui ai inventé l'expression, mais ils ont une espèce de moralisme compensatoire, le but que la nation canadienne-française va se... Plus tard, un théologien qui dirait ce n'est pas par les capitaux que la nation canadienne-française se va, mais par les idées, par donc une espèce de puritanisme catholique, mais au sens où notre but, c'est de rayonner, d'incarner la société la plus catholique qui va exister sur Terre. Donc, il y a comme un messianisme moral et une quête identitaire, disons, nationale, politique. Donc, ces deux éléments-là sont comme ce vers quoi le catholicisme va être orienté comme étant un instrument, finalement. Fait qu'on passe vraiment de la foi comme fin en soi, le but, c'est de la vie éternelle, à l'inverse, c'est-à-dire que là, on va mettre la foi au service de la nation canadienne-française et du messianisme, disons, moral. Donc, et ça va, c'est comme ces deux poumons dans lesquels ils vont s'encourager les uns les autres et se séparer finalement de la racine catholique à deux moments différents. Mais c'est à travers ces deux prismes-là que l'Église elle-même va s'auto-séculariser. C'est-à-dire qu'il va avoir une dilution de l'importance du spirituel et une sacralisation du temporel proportionnelle. Et donc, là, on va diminuer l'importance du spirituel graduellement, et on va sacraliser le temporel graduellement, jusqu'au moment qui est la Révolution tranquille, où est-ce que le temporel est tellement sacralisé que ce qui reste de symbolisme catholique qui rappelle qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que le temporel devient insupportable. Et donc, c'est à ce moment-là que finalement, a lieu une espèce de métamorphose de l'Église en État-providence. Mais c'est la même institution qui s'auto-sécularise jusqu'à ne même plus être capable de tolérer son propre bagage symbolique mais c'est le but de c'est comme la fin de l'histoire de mon livre, c'est justement là. Finalement, l'État québécois, État-providence, le mot théologique, providence de la théologie catholique, et bien chrétienne, on assiste à, finalement, c'est la même institution. Donc, on arrive, c'est la même institution. Il n'y a pas de révolution tranquille, donc une révolution pour rien. Il n'y a pas eu de révolution tranquille parce que l'État-providence aujourd'hui, tel qu'il s'est déployé depuis 1960, est encore cette Église auto-sécularisée. C'est la même institution. Donc, il n'y a jamais une révolution. On est encore aux prises avec le même rapport du spirituel. C'est juste une coche de plus dans cette continuité de sacralisation du temporel et de, dilution de l'importance du spirituel.
C'est ça, dans le fond. Dis-moi ce que tu en penses. C'est comme si, quand on entend les histoires aussi de nos grands-mères dont les prêtres venaient leur dire d'avoir des enfants... d'avoir des enfants un par année et tout, c'est que dans le fond, ça nous démontre que possiblement, il y avait une confusion aussi entre la notion spirituelle, c'est-à-dire c'est pour le salut des âmes, puis l'idée d'avoir une nation canadienne-française qui était forte, qui était grandissante, puis qui... Fait qu'il y avait une politisation vraiment de l'Église.
De l'enseignement moral de l'Église dans ce cas-là.
Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est-à-dire que l'enseignement moral, entre guillemets, d'avoir autant d'enfants qu'on est capable d'en éduquer, ça, c'est le principe global. Donc, ça ne change pas. Donc, il n'y avait pas d'erreur, disons, matérielle dans cet enseignement-là. Donc, c'est, ma famille nombreuse, c'était bon, ça l'est encore, tu sais. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la fin, c'est pourquoi c'est bon des grandes familles? Parce que c'est bon, de se multiplier comme espèce humaine, mais parce que Dieu veut des personnes humaines. Donc, il veut continuer à créer à travers la procréation et il veut des âmes éternellement unies à lui pour une vie intratrinitaire. Donc, on voit la dimension spirituelle. Mais est-ce que vraiment c'était pour ça qu'on demandait aux femmes et aux grands-mères, aux maris aussi, de faire de plus d'enfants qu'elles étaient capables? Pas nécessairement. Je pense que c'était davantage justement la revanche des berceaux qui était vue. Donc, on prenait l'enseignement moral, entre guillemets, ou disons, sur la famille de l'Église. On prenait juste ce qui faisait notre affaire. Et pourquoi? Pour faire en sorte d'être le plus nombreux possible pour pouvoir faire le poids contre les Canadiens anglais, en gros. Donc, là, il y a une instrumentalisation de l'enseignement de l'Église pour une fin politique. Et là, on peut voir justement une occurrence de cette autosécularisation et de cette instrumentalisation de l'Église qui, finalement, mène éventuellement des griefs contre l'Église. Là. Donc, finalement, oui. Même au niveau pastoral, c'était contre-productif.
Puis comment tu vois la naissance du narratif? Il y a quand même un narratif de révolution, tu sais, dans la façon dont on le présente. Puis il y avait aussi des figures culturelles, surtout, qui se présentaient comme des gens qui résistaient ou qui voulaient s'aligner avec les mouvements culturels plus révolutionnaires en Europe. Comment tu vois l'intégration de ces deux aspects-là ensemble?
Bien, c'est-à-dire le narratif révolutionnaire, il a été vécu, dans l'Église. Parce que c'est ça, à partir de Monseigneur Laflèche, dans le livre, ce que je fais, c'est que là, il y a comme une distinction que je fais, parce que cette auto-sécularisation-là et cette sacralisation du temporel va mener éventuellement à des groupes de plus en plus revanchant, ça se fait revanchant, entre guillemets, contre la présence institutionnelle de l'Église qui est vue comme étant un frein à ces idéaux-là. T'sais. Mais ça se voit graduellement et tout ça. Donc, on ne voit pas dès le départ un anticléricalisme. Au contraire, on voit une cléricalisation très, très forte. Et comment ce narratif-là révolutionnaire est vu? Ben, oui, il y a des éléments exogène au sens où il y a une partie qui vient des États-Unis avec la révolution sexuelle, donc qui est vue dans le cadre de l'émancipation. Et là, on voit comment l'enseignement, le résiduel de l'Église apparaît comme étant, anti-émancipation, spécialement à cette époque-là, parce que c'est contemporain, par exemple, les enjeux liés à la contraception, les nouvelles technologies reproductives, tout ça, par exemple. Bien, là, l'Église, l'Église catholique n'était pas explicitement prononcée là-dessus. Fait que là, il y a des commissions, avec même Charles de Connay qui va à Rome et tout ça, qui compte. Bon, et Paul VI arrive avec Humanivité. Humanivité vient dire non à la contraception. Pourquoi? Parce que ça vient, désunir, le lien, les deux finalités de l'acte sexuel, c'est l'union des époux et la procréation. Et on peut pas prendre un ou l'autre et les séparer. Ça doit être un tout. Donc, c'est vu après, même dans l'Église. Il y a même une conférence de Winnipeg, vous irez voir, ce qui est un espèce de document qui est venu lié à la conférence épiscopale canadienne, qui est pas dogmatique ou, il n'y a pas de contradiction, c'est pas un schisme, mais il y a quand même, on enseigne que les couples doivent suivre leur conscience, etc. Et on essaie de se distancer des enseignements de Paul VI à ce niveau-là. Donc, même à l'intérieur de l'Église, là, il va y avoir pendant des années, beaucoup de prêtres, de religieux, religieuses vont se positionner contre Rome, qui est vue comme étant cette institution-là qui empêche d'avancer. Mais avancer selon quel doctrine, la doctrine de l'époque et celle du progressisme. Donc, comment le narratif révolutionnaire va être embrassé par l'Église elle-même, c'est ça la question. Donc, ça va être explicitement même. Donc mm-hmm. ça va être vu comme le Rome étant l'institution rétrograde ou duquel il faut se distancer parce que dans le meilleur des cas, on va la présenter comme étant c'est l'univers, donc c'est universel. Donc, il y a des pays qui ne sont pas encore rendus là où nous sommes rendus. Donc, il faut la comprendre, mais nous, on peut déjà avoir ces positionnements-là contradictoires à ce qui est enseigné explicitement parce que, disons, on comprend l'universalité. Mais un jour, c'est Rome qui va arriver là où on est de nous rendu, donc c'est un peu la façon que ça va être justifié, disons, à tout le moins, mentalement, là, psychologiquement, par ces membres du clergé qui vont essayer d'intégrer cette dimension révolutionnaire, mais ils vont aussi se voir ça comme étant, parce que le progressisme se présente souvent, puisqu'il est un christianisme sécularisé, entre guillemets, de multiples égards, ben, ils vont voir ça comme étant une... c'est ça qui est... je vais attirer votre attention là-dessus, c'est que les évêques, pas les évêques, mais les prêtres, les religieux, les religieuses, ils vont voir justement cet élément-là. Ils vont voir l'élément, on pourrait dire, de fidélité à l'Évangile, ce qui est en vérité une continuité dans la soumission du temporel au spirituel. Donc, on va voir les mouvements sociaux, entre guillemets, vont arriver avec des nouvelles demandes, des nouvelles prérogatives, et ils vont dire, ah ben l'Évangile, regardez, l'Évangile nous demande d'être solidaire, donc nous devons donner de plus en plus d'impôts parce que l'État fait ça d'une manière merveilleuse. Et donc, on va peu à peu, disons d'une façon, justifier la soumission au temporel, du spirituel au temporel, par, entre guillemets, une version erronée de la fidélité à l'Évangile. Et même le Christ, dans les pires, entre guillemets, versions, ça va être la théologie de la libération, où est-ce que là, il faut faire la révolution au nom du Christ et tout ça. Mmh. Mais finalement, bien, on voit, pour avoir, disons, avoir une perspective, disons, chrétienne traditionnelle dans le cadre de l'hérésiologie. Je pense que cette sécularisation au Québec a été vécue, l'autosécularisation de l'Église et de la théologie au Québec, ça ressemble beaucoup au pélagianisme, là, beaucoup, dans bien des cas, où est-ce qu'on finit justement par essayer de se sauver soi-même, justement, dans l'implication, puis c'est l'engagement, puis c'est donc créer des institutions, puis essayer qu'on va arriver à notre salut. Puis c'est drôle à quel point on voit la continuité quand on s'arrête, puis on a les clés de compréhension, on voit les continuités entre la cléricalisation, le messianisme moral de Monseigneur Laflèche ou Monseigneur Bruchesi plus tard à Montréal. Quand on compare ça, par exemple, à Québec solidaire aujourd'hui, puis la pureté, puis là, je ne m'assoirais même pas à côté de quelqu'un qui est contre l'environnement. Tout ça, c'est la même psyché, mais mm-hmm. juste avec un contenu matériel différent, mais c'est la même psyché avec un degré de radicalisme qui vient de l'addition historique.
Mais, est-ce qu'il y avait des mouvements de résistance au progressisme dans l'Église? Est-ce qu'il y a des figures qui brillent comme étant des gens qui avertissent par rapport à la direction qu'on prend, soit que ce soit par rapport au transfert des responsabilités morales vers l'État, ou bien juste en général l'attitude de vouloir pointer le développement spirituel à une sorte d'utopie politique, là?
Ben c'est ça, c'est-à-dire que ça a été l'une des difficultés, c'est d'essayer de trouver, est-ce qu'il y a eu, disons, un repli, entre guillemets, conservateur d'un certain mouvement ecclésiaux qui aurait exercé une résistance à la marge, je dirais, c'est ce que je me suis rendu compte. Il y a eu des évêques, mon souvenir, par exemple, Cabana était vu comme étant à Sherbrooke, était vu comme un conservateur. Monseigneur de Rimouski, là, je me rappelle plus son nom, le dernier, lui aussi, par exemple, on peut voir dans l'épiscopat québécois, on peut voir ce que j'analyse dans le livre un petit peu, là, avec les libraires historiques qui nous sont donnés, c'est justement, il y avait un début de, disons, un transfert. C'est-à-dire qu'au départ, oui, il y avait une certaine résistance, Par exemple, Mgr Charbonneau à Montréal. Mgr Charbonneau qui est vu comme étant, qui était un évêque à Montréal nommé et qui a été finalement renvoyé de son épiscopat et envoyé à Vancouver et tout ça. Il y a même des pièces de théâtre là, qui ont été faites. Donc, on présente souvent parce qu'il s'opposait à Duplessis et tout ça. Donc à ce moment-là, au moment du renvoi de Mgr, entre guillemets, on ne sait pas la cause hein, parce que justement, on présente... Bon, c'est Rome, etc. Mais on ne sait pas. Ça a été vu par l'histoire, l'historiographie, comme étant Duplessis qui a forcé la main, etc. À Rome, peut-être, par les différents canaux de communication, de le renvoyer parce qu'il apportait une désunité au sein de l'épiscopat québécois. Peut-être c'est plus compliqué que ça, j'en sais rien, mais on voit qu'il y a une certaine fracture qui apparaît à ce moment-là dans l'épiscopat québécois entre ce qu'on. L'historiographie a voulu voir comme le clergé progressiste ou le clergé qui embrasse son temps dans les luttes sociales et tout ça, versus le vieux clergé réactionnaire. Et finalement, le renvoi de Mgr Charbonneau précédait de quelques années le tournant, on pourrait dire, progressiste de l'épiscopat puis de l'Église en entier. Donc, il aurait pu y avoir peut-être un combat, mais ce qui a... Et là, c'est un événement important à souligner, ce qui a, d'une certaine façon, aidé à ce transfert-là, c'est-à-dire de transfert d'une résistance, entre guillemets, spirituelle, que moi, je vois comme spirituelle, mais qui serait vue par, en politique comme étant disons, repli conservateur, c'est Vatican II. C'est-à-dire que Vatican II arrive à ce moment-là et lui-même est lu. Mais en même temps, les évêques, ils se rendaient compte que s'ils commencent, parce qu'ils voyaient la force de ce mouvement, entre guillemets, d'émancipation de la société québécoise, ils voyaient la soif des politiciens de créer un État-providence, ils voyaient, bon, puis de entre guillemets, s'accaparer ou d'essayer de prendre la main de plus en plus sur l'édifice institutionnel de l'Église. Et là, ils voyaient d'une certaine façon qu'il y aurait un combat à mener. Bon. Mais en même temps, donc, il pouvait y avoir une tentation de, bon, mais on va essayer d'aller avec, de minimiser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang dans la rue, SANG. Ben, on va essayer d'être conciliant puis d'être diplomate et tout ça. Donc, il y avait une tentation ou quelque chose de réel ou d'une bonne stratégie à avoir d'un côté. Mais en même temps, ils l'auraient fait parce que leur théologie, là, leur pastorale, était vue dans le pré-Vatican II. Donc, notre but, c'est d'encadrer le plus possible et de la survie des institutions catholiques, où est-ce que c'est écrit catholique sur le mur, égale l'Église contre laquelle rien ne se. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, mais là arrive Vatican II, et là, Vatican II, le narratif dans lequel est lu l'événement, non seulement lu, mais dans lequel il va être présenté par les journalistes de Rome au Québec, en France et tout ça, c'est justement le narratif de Vatican II comme étant en rupture et un moment où est-ce que l'Église doit s'ouvrir, l'Église doit embrasser le siècle, l'Lumen Gentium, Gaudium et Spes, spécialement sur les choses dans les relations entre le temporel et le spirituel, est vraiment lu à cette lumière-là de l'Église se réforme, l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église pour qu'elle soit en syntonie avec l'époque. C'est un peu ce qui est transmis de l'Église. Plus tard, Benoît XVI va présenter ça comme étant le concile des journalistes, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ce qui a été écrit, là, les documents puis l'événement, mais plutôt l'interprétation des journalistes qui a été... c'est ce que nous avons compris du concile. Par exemple, un exemple frappant comme ça, c'est le fait que beaucoup de religions ont retiré leurs vêtements religieux. Certains... qui ont peut-être, selon moi, mieux compris Vatican II, l'ont peut-être mis à jour. Là, je comprends que la collerette, bon, ça peut, quoi que j'ai rien contre ça, là, mais il y a vraiment eu un mouvement de masse de l'abandon de l'habit religieux. Pourquoi? Ben, en gros, si vous demandez à une religieuse, j'ai dit, ben, parce que Vatican II le demandait. Ben, si vous allez voir Vatican II, c'est jamais écrit nulle part. Là. Et même chose pour le latin, parce que Vatican II demandait d'arrêter la messe en latin. Non, il a demandé, a appelé à une réforme liturgique, mais Vatican II dit explicitement que le latin est la langue principale de la liturgie. Bon, donc, tout ce qu'on a fait passer sur le dos du concile n'est pas nécessairement le concile, mais ça montre cette volonté de rupture, comment le clergé a embrassé cet esprit révolutionnaire et comment Vatican, disons, la manière qu'a été vécu Vatican II durant l'événement, ils ont vu ça comme étant, on n'aura pas besoin de se battre, on n'aura pas besoin de recevoir des pierres dans la rue, on n'aura pas besoin d'avoir l'air les méchants de l'histoire. Nous n'avons, Vatican II nous permet d'embrasser les mouvements culturels des années 60. Et donc, d'où cette espèce de disparition du clergé instantané. Ils ont pas, et ça explique aussi, en partie, les prêtres qui vont sortir des ordres, les religieuses qui vont sortir des ordres, et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que le narratif de la révolutionnaire a été rendu acceptable dans l'Église même, dans son langage pastoral, dans ses collègues et tout ça. Et plus tard, on va arriver avec tous les grands chantiers de l'Église. Là, puis là, on va réformer, puis on va discuter comment appliquer Vatican II pendant 30-35 ans, là, qui est pour moi aussi une forme de pélagianisme, d'une certaine façon, parce qu'on essaie de sauver par nos propres réunions. La réunionnette aiguë a touché beaucoup l'Église et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que je répondrais.
Puis, une question aussi par rapport à Duplessis, parce que souvent aussi dans le narratif dont on a, tu sais, Duplessis est présenté comme le collaborateur de la noirceur de l'Église qui veut préserver les Québécois, tu sais, dans la superstition et tout. Mais déjà, dans ce que tu nous as suggéré, tu sais, qu'il y avait dans Duplessis, à cause de l'étatisation, il y avait aussi des frottements avec le clergé qui serait résistant au transfert, disons, vers l'État.
Oui, exactement. Je ne ferais pas Duplessis, disons, un étatiste, là, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était plus dans la libre entreprise, puis dans, disons, faire des affaires avec les Américains, notamment, d'où les tonnes de fer, je pense, à 3 ou de bronze, dans sa côte nord, à 3 cents la tonne. Okay, bon. On parlait de ça pour ridiculiser, puis aussi le copinage industriel qui était fait aussi, bon, etc. Donc, ça, c'est une question plus politique, mais pour ce qui est du mariage entre l'Église et l'État, je citerai un livre intéressant de Alexandre Dumas, non pas l'auteur, disons, français, mais disons l'historien, qui a écrit un bon livre là, qui s'appelle les relations entre l'Église et l'État de Taschereau à Duplessis, puis qui montre bien que de Taschereau jusqu'à Duplessis, celui qui est le plus, entre guillemets, le moins soumis au clergé, c'est Duplessis. Donc, là, déjà là, pour lui, donc pour lui, c'est vraiment plus ce côté-là. Ça serait plus Duplessis qui aurait utilisé l'Église pour ses propres fins. Mais il ne veut pas, c'est un catholique pratique, c'est un laïc, c'est-à-dire que ce n'est pas un religieux, mais il va aller à la messe. On disait qu'il allait à la messe tous les jours, à Québec, dans la chapelle Saint-Louis, à la cathédrale, où il quittait sa chambre de Château-Frontenac pour y aller. Donc, il était spirituellement un laïc, mais il avait déjà, d'une certaine façon, intégré. Je le fais un peu un précurseur, entre guillemets, de Vatican II à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait déjà assumé, peut-être par une caractéristique de sa personnalité, un homme fort, on l'appelait le chef, il avait déjà assumé, d'une certaine façon, l'indépendance du politique sur l'ecclésial. Mais là, je parle au niveau institutionnel. Mais de par sa spiritualité très forte, il avait une indépendance par rapport aux évêques en matière temporelle. Donc, il était déjà en avance sur son temps pour dans ce que c'est à la conclusion à laquelle j'arrive dans mon analyse. Mais et donc Duplessis avait déjà assumé un peu tout ça, mais il n'avait jamais voulu. Au contraire, il était plus qu'il était entre guillemets, pragmatique. Il savait que l'Église lui permet, les institutions ecclésiales lui permettaient de s'exonérer de l'implication de l'État dans les domaines sociaux, que ce soit la charité, l'éducation et les écoles, l'éducation et les hôpitaux. Donc, pour lui, moins il y avait de dépenses dans ces matières-là, mieux c'était parce qu'il pouvait faire des routes ou faire des ci, des ça. Donc, sa perception de l'État était vraiment celle d'un, on pourrait dire, d'un libéral de son temps, le pré-keynésien, là, finalement. C'est par la suite, au contraire, que là, on va vouloir absorber et assimiler les institutions de l'Église catholique. Ça va se faire principalement disons, l'intuition fondamentale va se faire chez Jean Lesage avec, disons, le gouvernement, le maître chez nous et tout ça, là, qui c'est à ce moment-là qu'il va y avoir ce qu'on appelle, disons, la révolution tranquille, donc le transfert des institutions ecclésiales de l'Église vers l'État. Donc, non, Duplessis, c'est vraiment, pour moi, c'est pas... c'est pas la grande noirceur au niveau politique, parce que, de par sa spiritualité très forte, de ce qu'on sait, ça lui permettait d'être un vrai pragmatique, c'est-à-dire de ne pas être, je pourrais dire... Parce qu'on voit aujourd'hui comment l'idéologie peut empêcher d'être efficace au niveau de la gestion de l'État, puis les politiques aériennes, oui, mais l'idéologie peut arriver à un certain dogmatisme aussi qui est contre-productif. Donc, pour moi, la forte spiritualité de Maurice Duplessis lui permettait ce grand pragmatisme-là, qui est, selon moi, une qualité très, très importante, qui ne va pas être la seule, mais des politiciens en général. Puis c'est ce qu'on voit de moins en moins, justement, parce que nos politiciens sont de moins en moins spirituels, donc ils ont de plus en plus tendance à vouloir se sauver avec l'argent des autres, finalement. Le pélagianisme, encore là, pour moi, le gauchisme, disons, la volonté de se sauver socialement par le collectif, aujourd'hui, ça s'incarne dans l'État-providence. Mais sortons de là aujourd'hui, on peut retourner où on était.
une question qui m'intéresse, là. Je suis assez fasciné par la partie du livre où tu expliques comment on a fini par réécrire l'histoire puis peinturer l'Église comme un vilain, pourquoi ça a fini par arriver. Là. Si justement tant de membres du clergé étaient positifs avec ce qui s'est passé puis ont activement collaboré, comment ça se fait que l'Église a fini par être peinturée comme un vilain comme ça? Puis j'ai envie de mentionner un exemple, entre autres, je trouve ça vraiment dur à démêler, tu sais, qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai. Par le passé, un exemple qui, j'aurais peut-être pas mentionné si vous l'avez pas mentionné plus tôt, mais l'idée, par exemple, qu'il y avait un clérico-natalisme là, où les prêtres forçaient les femmes à avoir des enfants. J'ai appris récemment, j'ai parlé à un historien, Jean-Claude Dupuis, il y a quelques semaines sur la chaîne, puis avec plusieurs historiens que lui étudie, là, de ce qu'il voit, ça serait un mythe essentiellement. Là. Si on regarde comme au niveau des documents historiques qu'on a, là, on a quand même des bonnes traces écrites de qu'est-ce que les curés envoyaient à leur évêque, qu'est-ce que les gens disaient. Là, on a quand même beaucoup de traces écrites. Puis, ça semblerait être un genre de réécriture du passé. Là. Probablement que dans les faits, les prêtres interdisaient la contraception, évidemment, contrairement aux Anglais, par exemple, là, ce qui se passait en Ontario.
Oui, ils le font toujours.
Puis, par la Révolution tranquille, ça a été comme réécrit dans nos mémoires comme étant les prêtres qui forçaient les femmes à avoir plein d'enfants. Mais mettons, si tu compares les taux de natalité des femmes québécoises dans les années 20 ou 30 en campagne versus les campagnes en Ontario, tu vois pas de différence. Ou si tu compares la ville au Québec versus la ville en Ontario, tu vois pas de différence. Fait que, t'sais, globalement, le taux de fertilité au Québec était haut parce qu'il y avait plus de campagnes proportionnellement que de villes. Puis, en général, les gens ont plus un bon taux de fertilité en campagne. Mais puis je me suis pas penché tant que ça sur la question, mais bref, je trouve quand même plausible de voir que même ça, c'est ce mythe-là, moi, j'étais certain que c'était vrai. Dans ma tête, c'était sans controverse. Là, que, tout le monde me disait ça, même des gens dans l'Église, que les prêtres forçaient les femmes à avoir des enfants. Mais même ça semble être comme potentiellement un mythe de la Révolution tranquille, comment on aurait écrit le passé. Fait que je serais, d'abord, vous pouvez réagir à ça, mais aussi, je serais curieux que tu nous expliques plus, Francis,
ce processus-là. C'est aussi le côté anecdotique, là, c'est-à-dire, t'sais, par exemple, aussi l'histoire des sœurs qui tapent les doigts des enfants dans les écoles. T'sais. C'est-à-dire, il y a des anecdotes qui se transmettent dans les familles. T'sais, moi, j'ai une anecdote de ma grand-mère qui, après avoir eu, je pense, quelques fausses couches, finalement, elle a renvoyé le prêtre. Elle a dit, c'est fini, là. Elle l'a comme renvoyé chez lui. Fait que, tu sais, est-ce que cette histoire-là est exagérée dans la Révolution tranquille? Est-ce que, tu sais, la raison pourquoi qu'on la raconte, c'est parce qu'elle touche un point vraiment saillant dans le narratif culturel? Je sais pas, mais je connais plusieurs familles qui ont des anecdotes comme ça qui fait qu'on croit à cette histoire-là.
Non, c'est clair. Est-ce que je suis pas un démographe? Et puis, je me suis pas penché sur la véracité. Moi aussi, j'ai comme pris ça un peu, entre guillemets, pour acquis, que qu'il y avait à tout le moins de la vérité derrière, là. Mais est-ce que c'est une anecdote qui a été montée en épingle dans le but de d'accuser l'Église? C'est très possible, hein, parce que le régime, disons, cette volonté de saisir les éléments, on était rendu à un point tel de la sacralisation du temporel que là, l'Église était vraiment vue comme étant un ennemi, là. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui nous retenait derrière, qui nous empêche de nous moderniser, qui nous empêche de prendre notre envol, même au niveau national. Parce que je parlais aussi des deux poumons, là. T'as le nationalisme aussi, là. Donc, l'Église est vue comme avoir collaboré avec les Anglais, de nous avoir empêché de... À toutes les époques, ils ont été un frein à notre déploiement politique. Même avec lors de la Révolution américaine, ils excommuniaient les possibles rebelles qui voulaient joindre la rébellion américaine et tout ça. Donc, après 1837-38, c'est la même chose, là, où est-ce que, là, on voulait se rebeller, puis là, le clergé d'enchères menaçait d'anathème tous ceux qui allaient collaborer aux rébelles. Tout ça. Donc, il y a toujours un ressentiment, puis graduellement, ça s'est accentué contre l'Église à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que dans les années 60, à ce niveau-là aussi, l'Église était vue comme étant un ennemi à abattre d'une certaine façon. Il fallait absolument lui enlever toute influence, justement, parce que l'histoire ayant appris que l'Église n'est pas un allié de l'indépendance du Québec, ben là où l'indépendance du Québec était le plus populaire dans les années 60 jusqu'en 1995, ben là, il fallait la neutraliser, l'Église, parce que l'histoire nous apprenait qu'elle était contre notre projet. Donc, il y avait un ressentiment qui a été vécu dans la vengeance, un petit peu, pour certaines personnes. Donc, il y a toujours les deux, là. Puis, donc, il y avait le mouvement émancipatoire, d'une part, moral, qui voulait se détacher de l'enseignement de l'Église. Et de l'autre part, il y avait ce mouvement national qui était vu aussi, là. Mais c'est vrai aussi que même après 1960, certains mouvements ecclésiaux avaient carrément des partis pris, là. T'sais, on parle au Père Lévesque, il était, entre guillemets, très fédéraliste. donc, pour moi, il y a eu un problème à ce niveau-là aussi, où est-ce que peut-être le clergé était encore trop attaché à donner son opinion sur ces questions-là. Là. Ça n'empêche pas un prêtre d'avoir ses opinions, mais la première priorité, c'est le spirituel. Et donc, surtout dans des périodes de bouillonnement culturel, national et tout ça, le clergé doit être complètement, doit tenir habituellement peut-être un mètre ou deux de ces questions-là. Ben là, dans ces périodes-là, il faut être à 10 mètres de ces questions-là et accompagner le monde. Ce que je pense peut-être dans la révolution, entre guillemets, révolution orange en Ukraine, on voyait les Russes d'une part, puis tu avais les manifestants de l'autre, tu avais le clergé dans le milieu qui était là. Donc pour moi, c'est un peu ça qu'il faut. C'est ça le but du clergé, c'est d'être des présences concrètes incarnées du royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, et ça c'est clair, ou dans l'étranger. En 1914, à toutes les époques, là, d'une certaine façon, c'est pas parce que je suis dans un... Ces deux saints, S-I-N-T-S, peuvent être dans des camps opposés, entre guillemets, à moins d'être un défenseur volontaire d'un régime intrinsèquement mauvais. Là. Mais globalement, une nation contre une autre nation, deux saints peuvent, entre guillemets, s'entretuer par fidélité à leur patrie, puis finalement, ils se ramassent au ciel dans le même jour, pour montrer à quel point... Le temporel est relatif par rapport à l'essentiel, qui est l'union à Dieu, là, qui est vécu, qui est accepté par la grâce. Donc, est-ce que c'est une réécriture de l'histoire? Pour moi, c'est sûr que oui, parce que pour moi, la Révolution tranquille, puis l'hégémonie du narratif de la Révolution tranquille, pour moi, ça a clairement teinté culturellement, là, au Québec. Ça a teinté l'ensemble de la réinterprétation de toute l'histoire depuis la Nouvelle-France, mais principalement dans la période précédente. Parce que les révolutions, ce qu'ils veulent, c'est la tabula rasa. Donc, il faut qu'il y a un effort supplémentaire dans l'effacement de la période qui a juste précédé là où on se trouve dans ces optiques-là. Donc, oui, c'est clair qu'il y a certainement eu beaucoup d'exagération. Le cardinal Ouellet, je pense, il y a une couple d'années, il s'était excusé publiquement est-ce que lui aussi est teinté? Tu sais, je sais pas, ex-cathédra non plus, là, mais il s'était excusé là, publiquement d'avoir, au nom de l'Église, pour avoir abusé dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est l'Église qui a abusé de ça, ou est-ce que c'est justement l'Église qui était à ce point elle-même auto-sécularisée qu'elle ne voyait même plus qu'elle instrumentalisait elle-même l'enseignement de l'Église pour des fins politiques ou démographiques, en l'occurrence. Donc, mais c'est intéressant, cette question de réécriture de l'histoire. D'une certaine façon, c'est un peu la trame aussi de la réfutation globale du livre, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, je prends un segment de l'histoire du Québec, puis j'offre ce que voudrait dire... Je relis moi aussi l'histoire, là, mais ce que voudrait dire le fait qu'il n'y a jamais eu de révolution tranquille, puis qu'on est toujours, d'une certaine façon, aujourd'hui, dans un Québec clérical, peut-être plus sévère encore que celui des années 60 qu'on a prétendu rejeter, parce que souvent, quand on prétend jouer à la révolution, comme ce que je prétends, on l'a fait, ça nous empêche de voir à quel point on est resté les mêmes. Puis donc, plus on a une vision, tordue de notre propre, de ce qu'on fait, moins on a de freins, d'une certaine façon. Et donc, plus on est radical. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore plus radicaux dans les travers que la Révolution tranquille prétend avoir rejetés? Moi, je pense que oui. Donc, c'est sûr que... Et là, je relis toute l'histoire à la lumière de cette radicalisation-là, qui est justement la sécularisation, la sécularisation au sens de dilution du spirituel et de sacralisation du temporel. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire que temporel et spirituel, l'importance qu'on donne à l'un à l'autre, c'est des vases communicants. Il y a nécessairement un plus et un moins. Et plus, Benoît XVI a une super belle phrase que je cite dans le livre, là, qui dit « The research of the absolute in history is the enemy of the good within it. » La recherche de l'absolu dans l'histoire est l'ennemi du bien qui s'y trouve. Donc, c'est-à-dire que plus vous cherchez la réalisation de l'absolu dans l'histoire, par exemple, à travers la justice sociale, à travers, même dans la famille, les plus belles réalités, l'amour conjugal, tout ça, même si on en fait un absolu, on va, finalement, ça va être contre-productif au point où est-ce qu'on va empêcher le bien de s'y réaliser.
Donc, mais c'est intéressant oui. Parce que par rapport à ce que tu dis, une des choses que j'ai remarqué, c'est que dans l'espèce de désir d'éliminer l'Église et puis l'histoire sainte de notre histoire, puis dans le désir d'établir une sorte de nationalisme qui est séculier, ce qui est arrivé, c'est qu'on a aussi évacué notre histoire. Parce que notre histoire est tellement imprégnée de l'Église, puis des saints, puis des personnages qui étaient vraiment religieux, ça fait que les Québécois, même les Québécois qui sont nationalistes, en fait, ils ont aucune base pour leur nationalisme. Ça fait un... On a un nationaliste qui s'auto-dévore.
Ouais, réfute, oui, exactement.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est assez fascinant parce que c'est pas surprenant que notre projet nationaliste, finalement, a échoué parce que ils ont, par leur même processus, ils ont éliminé une grande partie de ce qui donnait la grandeur de notre peuple.
Notamment la Nouvelle-France, c'est-à-dire que le peuple québécois, ou les premiers Canadiens, appelons-le comme ça pour revenir, les Français arrivés ici, disons jusqu'en... Bon, on peut, ça dépend de la conquête et tout ça, mais qu'ils aient survécu, par exemple, à la conquête, montre que leur maison, même au niveau temporel, était basée sur le roc. Non pas sur le sable. Et donc, qu'on soit encore là aujourd'hui, en 1960, là, déplaçons-nous en 1960, qu'on soit encore là jusqu'en 1960, pour moi, ça montre que la source était une source jaillissante, solide. Donc, les historiens, l'historiographie post-1960, se séparant de toute cette race, de tous ces fondements solides-là, en faisant en sorte qu'on... Le Québec moderne, le nouveau Québec, on va s'auto-engendrer. Bien, et finalement, ils ont enlevé les fondations. Et donc, ce qui a suivi cette refondation, pour moi, bien, on la voit s'écrouler aujourd'hui. Là. Ça, c'est clair.
C'est incroyable de penser que le mouvement nationaliste séculier québécois, c'est le début de la fin pour la nation française.
Parce qu'ils ont refusé profonde, la spirituelle. Ils ont sacralisé le temporel. Donc, le bien, parce que c'est pas nécessairement mauvais, la nation, là, il y a quelque chose de beau et de grand.
Oui.
Mais ils ont sacrifié, disons, la spiritualité, le Jésus-Christ, sur l'autel, justement, de la nation. Et finalement, ça détruit la nation. Donc, c'est d'où l'importance de la priorité du spirituel, toujours, parce que c'est le plus grand allié de toute les petites causes ou les causes qu'on peut avoir en ce monde. C'est les petites, Benoît XVI en parle, c'est les petites espérances versus les grands, la grande espérance. Si on n'a pas la grande espérance, le royaume de Dieu, extra-historique, supra ou trans-historique, on n'arrivera jamais au bien vraiment qui peut se réaliser même dans l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été perdu. Mais je pense que c'est une chance pour nous aujourd'hui parce que, disons, peut-être certains sentent la désillusion face à toutes ces idéaux historiques-là qui ont montré à différentes époques qu'ils étaient insuffisants. Donc, même dans nos propres vies, on en fait l'expérience. C'est-à-dire que toutes des belles réalités qu'on a, un bon repas, avec une belle assiette, c'est bon, c'est beau, mais essayez d'en faire un absolu et là, vous allez avoir une indigestion. Donc, c'est vrai dans toutes les réalités, disons, strictement historiques. On peut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là. Donc, on a besoin de cette spiritualité-là et je pense que cette espèce de nausée de tous les absolus historiques que les plus futés ou les plus sensibles d'entre nous se rendent compte, ben je pense que là, c'est l'occasion pour juste bien rééquilibrer les choses en présentant où se trouve le véritable absolu. Et après, une fois qu'on a le véritable absolu puis on l'a vraiment intégré dans nos vies, après ça, tout se replace et on devient des êtres équilibré là, à tous les points de vue. Donc, je pense que c'est ça la grande mission aujourd'hui. Puis, puis, entre guillemets, pour le bien de la nation québécoise, si elle a un avenir, ça va passer par là, nécessairement. Et ça va empêcher de tous les réductionnismes, qu'ils soient, je sais pas moi, ethniques, culturels, machin. On le voit, même ce que l'État présente aujourd'hui comme la culture québécoise, c'est vraiment gelé dans les années 80. Ils ne sont même pas capables d'évoluer.
Il y a plein d'humoristes. Est une machine à clowns. Le Québec est une machine à production de clowns. Mais j'ai une question pour toi parce que, tu sais, disons... parce que là, on a quand même la réalité que l'Église, disons, catholique au Québec, elle est l'héritière de toute cette histoire. Tu sais, elle a été quand même éviscérée, elle a été... Puis les prêtres, les vieux prêtres, les prêtres de l'époque de la Révolution tranquille, ils sont encore fervents dans leur... Ils tiennent le morceau, là. Ils croient encore... Non seulement que peut-être la raison pour laquelle l'Église est morte au Québec, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez, en fait. Ils n'ont pas fait assez, ouais. Ils n'ont pas été assez progressistes, ils n'ont pas assez... tu sais, même à la preuve de la mort des Églises unies anglicanes, toutes les Églises progressistes...
Les femmes prêtres, c'est la récupération, l'espèce de volonté d'intégrer toutes les causes progressistes à l'intérieur du catholicisme. Leur grand chantier, là. Puis ils sont encore ardents un peu, là.
Alors, comment tu vois l'avenir, disons, là, sur un horizon, là, comment tu vois l'avenir de l'Église ou de la relation entre le peuple canadien-français puis l'Église? J'avoue que je suis curieux parce que moi, j'ai de la difficulté, même si je peux croire à une sorte de transformation possible, on dirait que c'est difficile parce qu'on est allé loin ici.
Mm-hmm. Il y a deux perspectives, c'est-à-dire qu'il y a du côté de la société face à l'Église, puis il y a du côté de l'Église elle-même. Comment est-ce qu'on se situe là-dessus? Bien, je pense qu'une des raisons, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur l'espèce d'engouement, on le note en France, mais ça se note au Québec. Je parle beaucoup à des membres du clergé, des curés de paroisse qui me disent « Ah, il y a des gens qui arrivent, on sait pas, ils se sont auto-évangélisés sur YouTube, ils sont tombés sur le banc. » Je pense qu'il y a des signes, puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils viennent ici, c'est qu'ils se sont fait dire depuis toujours que l'Église changeait pas, entre guillemets, là. Elle avait des positions contraires à ce qui est moralement acceptable d'avoir, puis je pense que ça, déjà là, c'est comme « Oh! » ne pas changer face aux pressions, il y a déjà un attrait de la génération jeune. Parce qu'on sait que, bon, si Dieu est parfait, Dieu ne peut pas changer, il est parfait. Même s'il est dans l'histoire, bon, on ne va pas faire la théologie là-dessus, là, mais une des caractéristiques du divin, c'est justement la perfection. Et la perfection, c'est ce à quoi il ne manque rien. Et s'il manque rien, bon, le changement est exclu. Donc, il y a quelque chose de divin dans la fidélité à des principes. Et je pense que l'Église n'a pas besoin de faire sa réputation, disons, au sens médiatique du terme, là, parce que dans les médias, elle est encore présentée comme une institution rétrograde qui refuse les grands poncifs de notre époque. Donc ça, c'est déjà fait. Je pense que à ce niveau-là, il y a, entre guillemets, rien à faire. Là, ça s'en vient, puis il y a comme une vague, là, j'ai l'impression. Il faut prier, puis accueillir ces gens-là qui viennent, puis surtout pas les refuser, parce que pendant des années, on a... ce dont je parlais tout à l'heure, là, c'est-à-dire ce clergé, entre guillemets, dont tu faisais référence, progressiste, il a empêché beaucoup de jeunes d'entrer dans l'Église, oui, notamment dans le clergé. C'est-à-dire que plus les jeunes conservateurs qui voulaient mettre la soutane, c'était vu comme les ennemis à abattre et on faisait tout pour qu'ils abandonnent leur vocation s'ils en avaient une. Donc, on n'était pas au service du discernement, on était au service de garder le moule de l'Église qui se soumet au temporel, finalement. Donc, ça, il y a eu ça. Aujourd'hui, quand tu fais référence à ce clergé-là, oui, entre guillemets, il est fidèle à ce pélagianisme.
Mais ils sont vieux, au moins.
Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont vieux, sont, entre guillemets, décédés. Donc, espérons dans les bras du Père. Mais je pense que c'est ça, le signe temporel d'espoir. Ben, la vraie espérance, c'est la grâce de Jésus-Christ qui pousse partout. Il n'y a aucune qui ne souffre d'aucune limite si ce n'est que le refus de chaque personne de dire cette liberté de dire non à sa grâce qui peut faire irruption gratuitement dans la vie de quelqu'un. Mais ce clergé-là, homme ou femme, je parle des religieux, tout ça, je pense qu'ils ne sont plus là. Et j'ose espérer où ils sont moins influents, où ils sont dans des CHSLD, là, tu sais. Fait que je pense pas qu'aujourd'hui, après 1990, mettons, 95, il y ait beaucoup de ces personnes qui se sont engagées dans les ordres, qui avaient cette perspective de soumission à l'État, puis de justice sociale, entre guillemets. Cette vision un peu travailleur social de la vocation religieuse ou presbytérale. Je pense pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui qui s'engage pour ces raisons-là, de nulle part, finalement. Donc, je pense que c'est un peu terminé. Je pense que c'est à ce niveau-là, sans qu'on ait eu besoin d'utiliser de condamnation ou de... Je pense qu'il est mort de lui-même. C'est-à-dire que le mal, entre guillemets, c'est l'hérésie, c'est un peu autodétruit. Puis aujourd'hui, on arrive à ce moment-là. Et les évêques me semblent aujourd'hui assez... comment je pourrais dire? Ils n'ont pas je connais aucun évêque ou presque aucun prêtre qui aujourd'hui aurait la prétention de vouloir réinstituer un édifice institutionnel. Ils ont de la misère à gérer leur paroisse, leur patrimoine immobilier et tout ça. Donc, ça rentre même pas dans l'horizon temporel pastoral que de créer des écoles, créer des ci, créer ça. Un jour, peut-être, ça va revenir. Parce que, justement, on disait le bien de l'Église, la recherche de l'absolu dans l'histoire, c'est l'ennemi du bien qui s'y trouve. C'est vrai aussi pour l'Église. C'est-à-dire que en soumettant tout soumettant sa propre mission pendant trop d'années totalement au temporel à garder les institutions, ben finalement, ils ont tout perdu. Tandis que s'ils avaient vu que ça fait partie de la mission, l'aide aux pauvres, ça fait partie de la mission, l'aide aux ignorants par l'éducation, ça fait l'éducation, les pauvres aussi de la santé, s'ils avaient vu que c'est quelque chose de bien, mais c'est un instrument au service du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'union de l'âme au Christ et à la Trinité, ils auraient pu éventuellement garder une ou deux hôpitaux, une université au Québec, garder des écoles, garder... S'ils avaient su relativiser leur attachement institutionnel, le clergé lui-même dans les années 60 aurait pu garder quelques institutions. On ne serait pas dans l'état où nous nous en sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que je remarque dans le clergé, c'est qu'il a compris pour la majorité la priorité, la nécessité presque du spirituel. Donc, l'importance, c'est de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, de prier, et faisons ça comme il faut. Vivons l'économie sacramentelle d'une manière, le plus parfait qui nous est donné, le mieux qu'on peut, comme on dit. Et le reste va nous être donné par surcroît. Je pense que c'est ça le mot d'ordre pour les prochaines années. Puis éventuellement, graduellement, ça va, entre guillemets, se solutionner du mieux que c'est appelé à l'être. Mais il y a, comme Monseigneur Bourget, un évêque comme Mgr Lépine, je dirais, avec deux évêques de Montréal à deux époques différentes. Ben, Mgr Bourget était à une époque où, disons, l'édifice politique des Canadiens français était saisi par le pouvoir politique anglais. Et donc, il a comme saisi l'esprit du temps ou, disons, les circonstances historiques dans lesquelles il s'est trouvé pour, justement, évangéliser et permettre cette vie spirituelle-là à travers la création d'un édifice spirituel et institutionnel. Il a même fait appel à des congrégations en France qui étaient elles-mêmes persécutées. Venez-vous-en chez nous, tout ça. Bon, donc c'est parfait. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les circonstances qui sont les nôtres au niveau temporel et comment instrumentaliser, parce que ça mérite d'être instrumentalisé pour... Il faut instrumentaliser le temporel pour le spirituel. Donc, ça, un évêque, j'espère qu'ils ont compris ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exactement faire ça. Il va instrumentaliser les causes, disons, les circonstances historiques. Quelles sont-elles? Bien, elles sont à plein niveau. Il y a l'immigration de masse. Bon, en voilà une. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joint l'ethno-nationalisme ou... On dit aux gens, tu sais, un regain missionnaire, et ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement assimilé toute l'espèce de sécularisation, et au contraire, ils n'en veulent pas. Donc, il y a déjà un mur qui n'est pas là. Donc, disons, faisons naître, l'écroulement de l'édifice de l'État-providence fédéral et provincial, par exemple, les soins de santé, ben, ça va créer beaucoup plus de souffrance. Puis là, maintenant, on arrive avec un système de santé qui tue les gens pour
sauver de l'argent.
Pour faire sauver de l'argent. En tout cas, c'est clairement effet cause-effet. Je ne veux pas juger de l'intention des gens, mais c'est clairement, disons, d'une manière comptable, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet comptable entre les mésaventures du système de santé et l'euthanasie? Ben, je ne saurais me prononcer de manière parfaite, mais ça m'a tout l'air.
Moi, je me prononcer. Je veux dire, absolument. Même Justin Trudeau, il l'a dit à un moment donné, il a dit qu'on va sauver énormément d'argent avec l'aide à mourir. Il l'a dit clairement.
Donc là, on a affaire à un État dont l'incapacité à subvenir à ses propres prétentions de service public, t'as même plus besoin d'en parler, là, si tout le monde le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, chacun doit se positionner, un laïc, un politicien, un évêque aussi doit saisir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui vont... toutes les missions prétendues de l'État, Providence, sont en ce moment en train de faillir. Donc ça, comment instrumentaliser, entre guillemets, ça pour l'évangélisation, mais en même temps, on va faire du bien aux personnes. Oui. Donc c'est les deux, mais il faut toujours garder la primauté du spirituel pour un évêque. Donc on pourrait les multiplier, là, ces circonstances historiques-là, mais je pense que la première des choses, c'est justement... Puis je pense que la première étape, c'est un peu ce que je voulais faire dans mon livre, c'est de montrer comment avoir une vision, disons, catholique sur, ou disons, spirituelle sur notre propre histoire, pour être, une fois qu'on aura bien relu l'histoire du Québec, et on pourra éventuellement avancer dans la bonne direction et sortir, pour l'Église d'abord, sortir de l'autosécularisation. Aujourd'hui, avec l'état de la société aujourd'hui au niveau spirituel, je pense que t'as pas le temps de faire d'autre chose que ça, là, que de prêcher Jésus-Christ crucifié. Là. Y a rien, pour un prêtre, t'as rien d'autre à faire que ça dans ta journée. Là. C'est trop urgent. C'est trop urgent.
Bien, Francis, merci. Merci beaucoup de nous parler de ça. Je sais pas, Jean-Philippe, si tu as une dernière question, quelque chose que tu voulais dire avant qu'on termine.
Non, c'est bon, j'ai rien. Je peux rappeler aux gens de regarder le livre de Francis, Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec
avec
moderne.
La photo parfaite, c'est vraiment l'endroit à Montréal. Quand tu pars, tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs manières de le lire, de le voir. C'est-à-dire que la majorité voit, c'est l'héritage de l'Église qui est toujours présent parmi nous. Ben, moi, j'y vois au contraire. C'est-à-dire que cette institution-là qu'on prétend avoir enterrée est encore plus grosse, puis plus imposante, puis plus... Mm. Ça, c'est un autre élément, je pense. On parlait des circonstances historiques à saisir. Là, je pense, la liberté, je pense que c'est la vraie émancipation. Là, parce que la morale publique aujourd'hui, elle a atteint un niveau jamais atteint par la volonté de moraliser tout et de la cancellation, tout ça. On est dans du cléricalisme des années 50, mais exposant mille. T'sais, on est vraiment très, très, très... Il n'y a aucune place, aucune miséricorde, rien. Et ce n'est que... Et tout le monde s'empêche de parler, s'empêche de vivre, corset mental et psychique. Je pense que l'Église doit saisir cet état de fait pour justement prêcher la vraie émancipation, tu sais. La vraie émancipation qui est intérieure.
Oui, oui, mais c'est le Québec qui veut enlever l'abrogation religieuse de la loi sur la haine là, fédérale. Ouais, ouais. Et c'est les Québécois qui disent non, il faut pas aucun, il faut juste passer des lois contre la haine partout pour arrêter les gens qui disent des choses qu'on n'aime pas. C'est assez
intolérable, ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Alors, Francis, merci. Merci pour ton temps. Merci pour ton livre et pour le travail que tu fais. Certainement qu'on aura d'autres opportunités aussi de discuter.
Oui, ça fait un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de l'invitation.
Merci beaucoup.